marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Cascalement, c'est un peu de cuir. Ah, c'est un gros truc ça. Un fusil. Un chargeur avec ses munitions, c'est un trou assez prometteur.
Les promesses de l'archéologie du débarquement.
6 juin 1944. 10 ans ont passé et de ce port artificiel d'Arromanches qui permit le débarquement, bien peu de vestiges subsistent. Sur ces lieux où s'est écrit l'histoire, le président de la République et M. Laniel, entourés des représentants des nations alliées, ont célébré le 10e anniversaire du débarquement.
Le rivage d'une terre qu'il a fallu reconquérir. Il serait insensé ceux qui oublieraient le prix dont les peuples qui veulent rester libres paient tôt ou tard leur division, leur défaillance, leur querelle d'amour propre national.
Le président de la République de 1954, René Coty, normand, comme le président du Conseil, Joseph Laniel, qui avait donc organisé les premières cérémonies anniversaires du débarquement. La relève n'a pas été prise ensuite par le général de Gaulle, qui se refusait à célébrer un événement auquel ses alliés ne l'avaient pas beaucoup associé. En 1954, on a entendu « bien peu de vestiges du débarquement ont subsisté », disait-on. Les premiers réflexes avaient été en effet de désencombrer les champs pour les réensemencer et les plages pour permettre la venue des visiteurs. Raymond Triboulet, le premier sous-préfet en territoire libéré à Bayeux, avait pensé dès 1945 au tourisme de mémoire en créant un comité du débarquement. Les musées ont alors vite fleuri dans la région et dans un vaste périmètre, c'est loin à l'intérieur des terres, à L'Aigle, dans l'Orne, qu'a ouvert le premier d'entre eux. À la documentation souvent de briques et de brocs qu'ils ont rassemblées, s'est jointe celle gigantesque fournie par les historiens de tout poil, les amateurs passionnés comme les animateurs de l'université de Caen reconstruite. Histoire orale, histoire écrite, on avait fini par croire que tout ce qui était reconstituable l'avait été, minute par minute, localité par localité. Alors à quoi bon l'archéologie, qui est habituée, elle, à raisonner en temporalité beaucoup plus longue? C'était oublié que cette discipline traite maintenant avec quantité de techniques de pointe qui la rendent spectaculaire. Elle s'est d'abord appliquée avec succès à la Grande Guerre et le débarquement de 1944 lui ouvre maintenant un extraordinaire champ d'expérience. C'est une chance pour elle d'avancer avec à ses côtés tant de textes qui permettent vérification et confrontation. Il peut lui arriver aussi de redécouvrir ce qui n'avait pas été vraiment documenté. Juste un exemple, au sud de Caen. On explore actuellement une immense cave de brasserie où s'étaient dissimulés pendant des semaines des milliers de civils de la capitale normande bombardée. On a vu récemment une dame d'âge respectable descendre en rappel dans ce qui avait été son refuge et se mettre à témoigner de ce qui était resté inconnu. Les fouilles sont précieuses comme une pièce manquante dans un puzzle. Il arrive aussi, comme dans ce cas, qu'elle joue un rôle de déclencheur.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Vincent Carpentier, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Bon livre sur l'archéologie du débarquement qui a mérité une nouvelle édition. Ouest France, l'INRAP. Et c'est un livre que vous avez écrit avec Cyril Martigny, un de vos coturnes habituels. Vous êtes archéologue avec une formation de médiéviste. Vous avez commencé par faire de l'histoire à Caen, bien sûr.
Oui, j'ai commencé mon parcours sur les bancs de l'université de Caen en bon élève historien, pur et dur, j'ai envie de dire, hein, c'est-à-dire formé paléographie, études de documents écrits, l'histoire des historiens, la vraie, celle des textes pour ce qui concerne le Moyen-Âge. Et puis j'ai également subi, si l'on peut dire, cette tentation de me rendre sur le terrain sous la houlette de mes professeurs Canet, qui étaient aussi archéologues, qui avaient été formés par Michel Deboire, la figure du doyen d'université de Caen, une figure qui planait sur toute cette faculté, et très rapidement j'y ai pris goût, et à tel point que j'en ai même fait mon métier.
Et vous partagez votre temps maintenant entre l'archéologie du débarquement et du temps présent, et l'archéologie médiévale avec une dilection pour les sites entre terre et mer.
Oui, d'ailleurs, c'est une des voies qui m'ont amené progressivement à développer cette question de l'archéologie du débarquement de la Seconde Guerre mondiale en Normandie. C'est un intérêt que je nourris depuis très longtemps pour l'histoire des paysages, le contenu culturel des paysages, le rapport du temps long avec ce temps court, voire très court, de l'événementiel.
Alors, on va, si vous voulez bien, commencer par le ciel et par la mer, et puis on arrivera peu à peu aux côtes et à l'intérieur des terres. Alors, je citais le musée de l'Aigle, le musée doyen, qui, je crois, est fermé maintenant. Alors, il y a beaucoup de musées immersifs qui font commerce d'expériences, de simulations, qui permettent peut-être au quidam de s'imaginer en commando de 1944, prenant des avions improbables.
C'est l'embarquement dans un C-47.
Vous pouvez mettre en route, s'il vous plaît. Donc là, vous pouvez voir, en fait, l'aile se retire, hein, voilà, afin de libérer toute la partie fuselage qui, elle, va se mettre en route pour donner les sensations.
À l'intérieur, des écrans ont remplacé les hublots pour faire revivre aux touristes cette fameuse nuit qui a changé le cours de la guerre.
C'est un véritable avion de 43 et donc on l'a acheté à Spielberg puisqu'il a tourné dans la série Frères d'Armes, la célèbre série Banner Brothers. Ça reste un véritable C-47 d'époque qui a véritablement servi au débarquement. Donc voilà.
Cette expérience du jour J, c'est 12 euros par personne et 7 minutes de turbulence. Dans la réalité, la traversée a duré 2 heures. La peur au ventre pour les parachutistes. Au moment d'arriver sur les côtes françaises, ce sont les tirs de la DCA allemande. Touché, le C-47 finit par se cracher.
Pour ce reportage de France 5, j'hésite à localiser davantage parce que je me demande si c'est bien prudent. C'est une chance pour les archéologues, toutes ces épaves, les avions qui tombent, les chars qui étaient dans des barges, et les barges coulent.
Alors c'est une chance, c'est surtout un matériau, avant d'être une chance, dont finalement il reste assez peu de représentants intact et sur le, enfin, in situ sur le lieu de leur engloutissement ou de leur destruction. Il faut bien comprendre que l'archéologie en France aujourd'hui fonctionne principalement de façon fortuite, ce qu'on appelle l'archéologie préventive, au gré des aménagements. Et donc les découvertes sont parfois inattendues, de vestiges effectivement de blindés, de véhicules, de crash d'avions qui étaient peu ou mal renseignés. Donc tout notre travail consiste dans un premier temps à enregistrer toutes ces données, les localiser et puis à les archiver de manière à en constituer dans un avenir plus ou moins proche une source exploitable.
Mais là, vous parlez de l'archéologie préventive à l'occasion d'aménagements sur la Terre. Alors vous êtes déjà arrivé sur la Terre. Mais on a sauté l'étape de la plage. Alors sur la plage, il n'y a plus rien. Encore que, dites-vous, le sable.
Je dirais que la partie effectivement la plus visible, enfin tout ces plages de débarquement. Alors le sable, c'est celui d'Omaha Beach qui est particulièrement significatif et même symbolique de cet effacement des traces, y compris sur les endroits les plus emblématiques du D-Day.
Mais sauf quand on l'observe de très près.
Quand on l'observe de très près, deux géologues américains ont effectivement prélevé des échantillons sur cette plage parmi beaucoup d'autres à travers la planète et ils ont observé qu'il restait des minuscules fragments de d'éclats d'obus. En métal qui disparaîtront d'ici quelques décennies tout au plus, et puis également des billes de verre qui sont nées de la fusion du sable à cause de la chaleur des explosions, et ils ont produit publié leur observation et produit cette réflexion qui est très intéressante pour les gestionnaires du patrimoine et l'organisation, je dirais, de la mémoire dans son entier, qui est que d'abord ces choses sont aujourd'hui invisibles, donc première question, comment raconter l'événement en montrant des preuves tangibles public. Et puis, deuxième question, comment conserver le plus longtemps possible les traces qui nous semblent importantes de cet événement?
Parce que la tendance après la libération, c'était de déminer. avec souvent des prisonniers allemands ou des gens qui étaient contraints.
Tout à fait. Tout
à cause
fait.
De leur passé de le fer.
Un déminage qui a été un nettoyage d'une manière générale et aussi doublé par une récupération très très importante de la ferraille dans un pays qui nécessitait des tonnes et des tonnes de matériaux pour se reconstruire.
Et puis, devant le mur de béton, parce qu'il y a là des traces extrêmement visibles, et quelques 12 000 installations du mur de l'Atlantique commencé en 42 et dont la construction a été accélérée en 43. On voulait les démonter, les exploser, les confier aux ferrailleurs dont vous parlez.
Bien sûr, et ça a été fait, y compris pour on parlait d'épaves de blindés tout à l'heure, hein, les chars ont été aussi dépecés pour récupérer la ferraille. Il se trouve que beaucoup de ces bunkers ont été effectivement démantelés, démolis, explosés, d'autres ont été réintégrés dans des constructions. Enfin, ils ont connu un éventail assez large de conditions qui ont participé de leur effacement. Alors, on connaît assez bien aujourd'hui, sont des sites qui sont d'ailleurs très visités, les grandes batteries côtières, comme Longue-sur-Mer, la batterie de Merville, etc., la pointe du Hoc, qui ont été sanctuarisées. D'ailleurs, les paysages sont entretenus, les cratères sont vidés, on gère jusqu'à la végétation.
La batterie dont vous parlez, qui est l'objet d'une expo, là, actuellement.
Tout à fait.
Elle est classée monument historique.
Une exposition sur l'archéologie du débarquement, la batterie de Longue-sur-Mer, qui est la seule à avoir conservé ses canons, donc le public s'y masse, pour le côté spectaculaire. On connaît beaucoup moins bien en revanche, les très très nombreuses constructions de moindre importance, de moindre volume, qui, au gré des inventaires que produisent les archéologues depuis seulement quelques années, révèlent des disparités tout à fait intéressantes en rapport avec la chronologie, en rapport avec les pénuries de matériaux, en rapport avec les conditions dans lesquelles l'organisation TOT organisait les chantiers à un grand coup de réquisition auprès des populations civiles.
Dans votre livre avec Cyrine Marcigny, chez Ouest France, l'archéologie du débarquement, vous dites de manière un peu surprenante que le bunker est très fragile.
Le bunker est très fragile, effectivement, cette masse de béton. Alors, on voit d'ailleurs, je trouve personnellement, dans cette image largement répandue d'un mur de l'Atlantique hyper bétonné, extrêmement solide, indestructible, éternel, on voit un écho lointain de la propagande allemande elle-même. Or, la réalité des faits est tout à fait différente. Certains sites ont bien été très lourdement bétonnés et resteront certainement très très longtemps visibles et debout. D'autres, au contraire, sont bouleversés par l'érosion marine, par le pillage, par l'aménagement du territoire, et donc s'avèrent tout à fait soumis à la disparition, au même titre que tous les autres vestiges que l'on rencontre.
Le pillage, les professionnels de la profession en archéologie sont très méfiants devant les amateurs passionnés. Mais de celui-ci qu'on va entendre, Fabrice Corbin, vous ne pourrez pas dire qu'il ne prend pas bien soin de son bunker.
C'est quand même des masses de béton, et même celui-ci était destiné à la démolition. Parce qu'on pourrait affecter ça à une utilisation civile, c'est vraiment très difficile. Certains sont classés comme ici, je ne sais pas pourquoi, et d'autres sont totalement... on en fait ce qu'on en veut, quoi. C'est ça qui est étonnant, quoi. C'est typiquement français. Quand j'ai démarré la restauration et quand j'ai ouvert le musée en 87, c'était pas très bien perçu, même par les autorités, parce qu'ils ont pensé tout de suite à une démarche pro-nazie, ou je ne sais pas. En fait, tous les musées du débarquement qui existaient en Normandie étaient tous axés dans un sens unique. C'était du point de vue allié. Et toutes les expositions, c'était que du point de vue allié. On n'avait pas d'exposition du côté allemand, en fait, qui était aussi passionnant.
Exposer, c'est ce qu'il tente de faire, Corbin, dans son bunker, un point de vue allemand. Vous insistez, vous, sur les fresques, les peintures, les décors que les Allemands ont apposés sur les murs intérieurs.
Oui, c'est l'un des thèmes, je dirais, les plus inédits, les plus intéressants qui a été abordé par l'archéologie du mur de l'Atlantique. C'est le relevé notamment de ces inscriptions. Ça vaut aussi d'ailleurs pour la Première Guerre mondiale, qui a donné lieu à des campagnes de relevé de graffitis extrêmement intéressants pour se représenter le paysage mental, culturel, le quotidien des troupes dans leurs tranchées, dans leurs bunkers, hein, et pas seulement en France, bien sûr, mais à l'échelle du conflit tout entier. L'exemple de ce personnage qui est bien connu dans le milieu des très nombreux musées du jour J du débarquement en Normandie est particulièrement bien choisi, et ce qu'il dit est au fond tout à fait véritable, c'est-à-dire qu'avant l'entrée officielle en 2014 de ce patrimoine de guerre de la Seconde Guerre mondiale, et pas seulement celui de la Normandie, dans les problématiques et dans la gestion nationale par par le ministère de la Culture, en l'occurrence, c'est Aurélie Filippetti hein, qui a pris cette décision, eh bien, c'était un champ relativement libre, avec certains sites effectivement classés, d'autres pas, certains sites protégés, plus ou moins surveillés, acquis par le Conservatoire du Littoral, par exemple, pour les bandes côtières, alors que d'autres étaient tout à fait libres, non seulement à la visite, mais aussi à tout un tas d'initiatives, de récupération. C'est ce que déplorent aujourd'hui les archéologues, non pas pour soulever une querelle de clochers autour de ce patrimoine, mais tout simplement parce que la source archéologique, et ça vaut pour toutes les périodes, a besoin d'être étudiée dans son contexte. Et c'est ce que ne permet pas, justement, ce pillage presque systématique.
Et vous avez glissé comme ça du mot « ce personnage ». Moi, pour moi, c'est un amateur passionné, Corbin, qui a commencé à 9 ans, alors que vous avez commencé à 21. Et vous êtes passé à pillage. Tenez, juste un instant, une remarque sur sa méthode. Lui aussi, il travaille à partir de photos aériennes. C'est un reportage de France 3 en 2000.
Nous sommes là. On voit même le petit abri qui est derrière, là. Donc on voit les tranchées de l'époque qui s'y dirigent, vous voyez. C'est des photos de très haut, hein. C'est 12 000 mètres d'altitude, c'est pas très précis, mais ça, c'est très intéressant. Et donc, c'est obligé qu'il doit rester du matériel. Et on va chercher. On va essayer de trouver. Il y a quelque chose.
Un jour, Fabrice a déterré un cheval entier avec la selle et son cavalier. Alors cette fois encore, on peut s'attendre à tout.
Casque allemand, casse un peu de cuir. Ah, c'est un gros truc, ça. Un fusil. Bien, ça c'est russe. Un chargeur avec ses munitions, c'est un trou assez prometteur.
Ça c'est russe, c'est bizarre qu'il y ait des choses russes. Mais ce que vous reprochez souvent à ces amateurs, qui ont joué un rôle nécessaire, comme les premiers archéologues amateurs du 19e siècle ont contribué à fonder la Société des Antiquaires de Normandie, c'est, avez-vous dit, de ne pas contextualiser.
Voilà, tout est là. On voit très bien dans cette archive sonore le processus. C'est-à-dire que c'est une fouille qui est entièrement ou presque entièrement dirigée vers la récupération d'objets les plus sensationnels, les plus rares possibles. On a affaire effectivement à des gens très très actifs qui connaissent parfaitement le matériel, qui publient d'ailleurs très régulièrement des catalogues, des synthèses extrêmement bien documentées sur la question. Mais ce n'est pas de l'archéologie et c'est tout le problème. D'ailleurs, ça vaut aussi, je vous le disais, pour d'autres périodes, préhistorique, historique, peu importe. Où des amateurs se prétendent archéologues et surtout revendiquent le fait de sauver la mémoire qui disparaît, de protéger quelque chose qui n'est pas pris en compte par des autorités publiques, ce qui est effectivement le cas pour la Seconde Guerre mondiale jusqu'en 2014, mais en revanche, ils ne produisent pas de rapport archéologique, ils n'étudient pas le contexte sédimentaire, ils ne proposent pas d'interprétation quant à la présence de ces objets, ils se contentent d'en réaliser des inventaires à la Prévert et dans le meilleur des cas des collections qui finiront dans des musées mais qui ne sont qu'illustratives.
Oh là là, bah écoutez, avant que ça ne tire à balles réelles, je vous propose d'écouter, tenez, un homme qui a maintenant 90 ans, qui s'appelle Jim Radford. Alors son frère était sous l'uniforme, il est mort dans les troupes britanniques à 17 ans, et lui, gamin, il était mousse sur un navire d'appui, il était cuistot, et il vient de créer ceci.
In the cold grey light of the 6th of June, in the year of 44, the Empire Lark sailed out from Poole to join with thousands more, the largest fleet the world had seen. We sailed in close array and we set our course for Normandy at the dawning of the day. There was not one man in all our crew but knew what lay in store. For we had waited for that day through 5 long years of war. We knew that many would not return, but all our hearts were true. For we were bound for Normandy, where we had a job to do.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
L'archéologie du débarquement, et je rappelle que notre invité Vincent Carpentier avec Cyril Marcigny a publié Ouest France INRAP, l'archéologie du débarquement. Je ne veux pas creuser les différences entre les amateurs passionnés et vous, mais face à un cadavre, ce n'est pas l'objectif de l'archéologue de trouver un cadavre. Alors, et il suit des procédures.
Voilà. C'est dans un premier temps ce qui compte. Encore une fois, on a affaire ici à des découvertes fortuites, inattendues. Alors, il existe une législation en cas de découverte de corps humain, qui d'ailleurs comporte des différences importantes en fonction qu'il s'agit de civils ou de militaires de la Seconde Guerre mondiale. Lorsqu'il s'agit de militaires, les archéologues doivent, bon, dans tous les cas, doivent d'abord, bien sûr, avertir les forces de gendarmerie. Et lorsqu'il s'agit de militaires, les archéologues ont affaire aux différentes commissions, une par nationalité, qui est chargée de la récupération sur le terrain des soldats perdus. Ou de leur reste, peu importe. Ce qui se passe très concrètement depuis quelques années, c'est que lorsque le cas se présente, ça a eu lieu d'ailleurs il y a à peine quelques semaines au sud-ouest de Caen, à Malteau, donc on est sur le secteur de la bien connue de la côte 112, où ont lieu des combats extrêmement violents entre les Britanniques plusieurs divisions allemandes, les corps allemands, les corps britanniques sont récupérés chacun par ces institutions qui ne disposent généralement pas d'ailleurs des moyens pour venir fouiller, donc ils travaillent main dans la main, c'est assez récent avec les archéologues. Ça se fait depuis plus longtemps sur les fronts de 14-18 avec une participation des archéologues à l'identification des corps et ainsi de suite.
Un cas un peu plus ancien, 2009, France 3 toujours.
Maurice Poupinel ne revient plus très souvent par ici. Il ne reste rien de la ferme familiale, elle fut détruite sous les bombes. Nous sommes tout près de Ranville et du pont de Pégasus. Les combats furent acharnés dans ce secteur. Mais 65 ans plus tard, le vieux cultivateur n'imaginait pas que 5 soldats allemands reposaient ici, sous les pommiers, sous moins de 50 cm de terre.
On a identifié déjà 3 corps grâce aux plaques d'immatriculation qui sont en cours. On a un officier, on n'a pas le grade, on a un officier d'un âge à peu près, peut-être 25, plus de 25 ans, peut-être 28.
Tout porte à croire qu'ils furent des victimes des premiers jours de combat, enterrés à la hâte par leurs adversaires.
C'est une sépulture de soldats allemands, mais qui a été réalisée par les Alliés, puisque les plaques d'identification sont encore entières et encore en place. Donc ce ne sont pas les Allemands, leurs congénères, qui les ont inhumés, ce sont les Alliés, de façon assez rapide, disons, hein, dans l'urgence toujours.
Mais c'est avec une minutie extrême que les archéologues procèdent à ces fouilles avant l'exhumation des corps et leur possible transfert au cimetière allemand de Lacambe. Qui étaient-ils ? Sans doute des membres de la division basée à Bavan, peut-être des supplétifs mongols de la Wehrmacht.
Des supplétifs mongols, qui étaient-ils ? Juste un mot de l'identification et des questions que ça vous pose.
Alors le problème d'identification, c'est surtout celui, encore une fois, des commissions. Donc l'archéologue, dans ces cas-là, essaie de contribuer. Donc identification menée par des anthropologues spécialisés en ce qui concerne l'âge, le sexe, etc. Plus spécifiquement en ce qui concerne les troupes, c'est la question qui se pose ici, que ces trois Allemands, je connais bien le secteur de Bavan, de Ranville, où opéraient les parachutistes britanniques. On essaie de voir s'ils ont leur plaque d'identité. C'est le cas ici. Et puis également ces interprétations de type archéologique qui ont été menées d'ailleurs par un membre de du service régional d'archéologie Normandie, Jean Desloges, c'est lui qu'on entend parler de témoignage, et qui effectivement observe qu'ayant leur plaque, ils ont dû être enterrés dans certaines conditions. Alors ça peut être aussi par des civils, hein, tout simplement dans ce secteur-là. Mais déjà une contribution à l'identification et au contexte de leur ensevelissement qui permet d'en savoir un peu plus. Et il faut savoir que toutes ces données sont réunies et retransmises aux familles. Donc elles conservent aussi de ce point de vue-là une certaine importance.
Et les morts civils qui occupe de plus en plus d'importance dans la mémoire. Falaise vient d'ouvrir un mémorial qui leur est dédié. On ne se souvient pas assez que les combats à Falaise, il y avait une poche, ont duré très longtemps. Et à Saint-Lô, on en était encore là, le 21 juillet, les actualités cinématographiques collaborationnistes de Paris.
La bataille de Saint-Lô. Entre Pont-Hébert et Saint-Lô, les blindés du Reich se portent au-devant des divisions américaines qui ont pénétré dans les lignes de défense allemandes. Les adversaires sont en présence, le combat s'engage. Afin de verrouiller la progression américaine, les Allemands ont mis en première ligne des blindés lance-fusées. Autour maintenant des chars lance-plats. Les grenadiers se déploient vers les chars américains signalés à l'orée du bois près de Villers-Bocard. Nous voici dans la ville où une avance anglaise a été stoppée. Des chars cloués au sol témoignent de la violence des combats qui se déroulèrent ici. Quant aux maisons, il n'en reste hélas que des pans de murs.
Quand on était déjà à sa millième et plus alerte aérienne le 6 juin et en juillet, il reste moins du tiers de la ville. La population va refluer, par exemple au sud, où vous travaillez dans un chantier tout à fait intéressant sur le site d'une cave, d'une brasserie où les frères Saint avaient ouvert les portes à des milliers de réfugiés. Il y en avait souvent 1000 ensemble.
Effectivement, au sud de Caen, l'archéologie a mis au jour un refuge parmi beaucoup d'autres, puisqu'il s'y trouvait depuis le Moyen-Âge des carrières de pierre très profondes. Donc l'une de ces carrières appartenait aux frères Saint, qui étaient des brasseurs, et spontanément, comme d'autres, hein, ils ne sont pas les seuls, mais c'est la seule carrière qui était entièrement préservée, c'est-à-dire tout s'y trouve encore intact aujourd'hui. Les frères Saint ont ouvert leur carrière à toutes les familles parties en exode qui fuyaient sous les bombes. Donc depuis 5 ans, mon collègue Cyril Marcini a organisé chaque année une campagne de relevé en 3 dimensions avec une technologie de pointe que vous évoquiez en début de cette émission, de manière à pouvoir procéder à une visite virtuelle du site et surtout à l'archiver.
Mais on ne savait plus que ce refuge avait existé. Les frères Saint n'avaient pas été récompensés. Alors, le coeur ouvert, c'était devenu un lieu de
exactement,
d'entreprise logistique.
Voilà, des mauvais souvenirs, pour dire les choses de manière très brève, des mauvais souvenirs qui ont fait que cette propriété privée est restée très longtemps fermée et donc n'a été visitée que très ponctuellement par quelques personnes dans le secret. Le fait que la fouille depuis 2014, fouille non invasive, hein, était mise en place, a néanmoins permis, s'est accompagné d'abord du recueil de tous les témoignages disponibles.
Donc c'est l'archéologie qui suscite le témoignage.
Tout à fait.
Vous êtes chef de fuite.
Alors c'est une opportunité qu'on n'a pas manqué de saisir. Ça a été le cas par exemple aussi sur un autre site de Normandie tout à fait particulier, celui du camp de prisonniers allemands de la Glacerie à Cherbourg, où les témoignages, la parole s'est libérée grâce à la fouille. Voilà, y compris des gens, pour ce qui concerne la carrière, qui s'y trouvaient, qui n'avaient à peu près jamais rien dit, et qui nous ont raconté toute leur histoire avec des détails vérifiables et vérifiés sur le terrain, qui forment aujourd'hui une archive tout à fait précieuse pour ce chapitre de l'histoire des civils sous les bombes.
Merci à vous et bravo pour cette archéologie du débarquement. C'est chez Ouest France INRAP, ça se termine par un appel à travailler sur la reconstruction, archéologie de la destruction, archéologie demain de la reconstruction. L'émission a été préparée par Frédéric Martin avec Franck Olivard, Audrey Ripouille à la réalisation, Arnaud Caillet à la technique. Et chez vous, Mathieu Vidard?
Eh bien, nous allons faire quasiment une archéologie des fleurs et remonter très loin, Jean, à au moins 150 millions d'années avec mon invité François Parsi.